Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Grippe aviaire, grippe H1N1, SRAS, c'est-à-dire syndrome respiratoire aigu sévère, chikungunya, dengue, Ebola. Ces 10 dernières années ont vu un accroissement significatif d'épidémies qui mettent en évidence tout d'abord la mondialisation croissante des risques sanitaires et qui montrent aussi les liens entre santé animale et santé humaine. On estime ainsi que 60% des maladies humaines infectieuses connues sont d'origine animale. C'est en partant de ce constat que des agences internationales comme l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et l'OIE, l'Organisation internationale de la santé animale, ont lancé la dynamique One Else, une seule santé en 2004. L'objectif, penser collectivement santé humaine et santé animale et établir une stratégie unique pour la surveillance, la recherche et l'anticipation des épidémies. Alors, de nombreux États se sont engagés dans cette dynamique, comme la France en 2011. Le troisième congrès One Health avait lieu à Amsterdam aux Pays-Bas le 16 mars dernier et Igor Strauss était sur place. Il a pu s'entretenir longuement avec Thierry Pinault, qui est chef du département santé animale à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Et dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons du tourisme médical et bien sûr, on terminera comme tous les jeudis avec la chronique du docteur Catherine Solano. Toujours, on a séparé, en fait, à tort, santé humaine et santé animale. Dans les universités, par exemple, les étudiants en médecine et les étudiants vétérinaires sont séparés sans qu'il y ait de passerelle entre ces deux formations. Idem, je dirais, pour la recherche et pour l'industrie. Le plus gros fabricant de vaccins humains, GSK, ne s'occupe pas de santé animale. Et le plus gros fabricant de vaccins pour les animaux, Zoetis, ne fait pas dans la santé humaine. Pourtant, les liens sont nombreux. Et la mondialisation, les déplacements toujours plus fréquents et le réchauffement climatique vont encore accélérer les choses, comme nous l'explique justement Thierry Pinault, chef du département santé animale à l'INRA.
Il faut se représenter que le changement global est en marche, que nous avons quand même un réchauffement généralisé, qu'il va y avoir des changements dans l'aire de répartition des insectes ou des acariens vecteurs de maladies et que cette biodiversité qui peut exister dans certaines zones du monde peut avoir vraiment de l'intérêt aussi pour la robustesse des animaux que nous élèverons dans quelques décennies en zone tempérée. On sait par exemple que le moustique Aedes albopictus est présent sur le nord du bassin méditerranéen et que ce moustique a une aptitude pour véhiculer certaines maladies.
Comme laquelle par exemple ?
Alors le virus du Nil occidental. Et donc on peut imaginer un scénario où le virus arriverait dans cette zone géographique et trouverait naturellement son insecte qui sert de vecteur. Et donc, évidemment, je ne vous cache pas que le virus trouverait là un biotope qui lui serait tout à fait adapté. Et brutalement, on découvrirait une maladie qui serait pour nous émergente, alors qu'elle sévit sur le continent africain en particulier. Et donc, l'Europe la découvrirait. Ces choses-là, on les a vues déjà se produire dans les années 2007-2008 pour d'autres maladies, des maladies donc qui n'ont pas été très médiatisées parce qu'elles concernaient juste la santé des animaux. Mais on a vu des émergences de la maladie de la langue bleue. Et cette maladie est apparue d'une manière très originale dans la région entre la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas. Et le virus a trouvé là des moucherons qui sont finalement répartis sur toute l'aire géographique de l'Europe. Et le virus est arrivé directement au milieu du dispositif européen et s'est réparti en nappes en l'espace de plusieurs mois et a fait vraiment des ravages pendant les deux premières années de sa présence en Europe. Donc véritablement, ça a été une découverte que nous étions vulnérables au plein cœur du dispositif européen. Alors après, on a eu encore, quelques années plus tard, une apparition d'un autre virus qui là était totalement original, qui touchait plusieurs espèces animales, qui s'appelait le virus de Schmallenberg. Donc il est apparu là aussi en Allemagne et il a utilisé toujours des insectes résidents, des insectes autochtones de l'Europe pour se disperser. Et là, il s'agissait d'un virus, alors là, tout à fait nouveau, original, C'est une vraie émergence et c'était un virus qui avait des propriétés tératogènes, c'est-à-dire qu'il provoquait des malformations chez les fœtus des différents animaux qu'il touchait. On s'en est aperçu surtout chez les moutons, chez les veaux, un peu chez les chèvres. Et heureusement, ce virus n'avait pas la capacité à passer la barrière d'espèce humaine. C'est pour ça que finalement, ça n'a pas été très médiatisé et on n'en a pas entendu énormément parler. Mais nous sommes vulnérables parce que nous hébergeons en Europe des insectes, des tiques également, des acariens, qui sont des vecteurs potentiels pour des agents pathogènes qui nous arriveraient de l'extérieur.
Alors évidemment, il y a une question qu'on se pose dans ces cas-là. Hein. Faut-il se méfier des animaux? Quels sont les animaux les plus suivis? La réponse donc de Thierry Pinault, chef du département santé animale à l'INRA, qui est l'Institut national de la recherche agronomique.
Il n'y a pas d'animal, pour répondre à votre question, qui soit vraiment particulièrement dangereux. Il y a des animaux modèles qui sont adaptés à leurs pathogènes et on est amené effectivement à travailler avec le bon modèle d'animal. Pour vous donner un exemple, on peut travailler avec des veaux si on travaille sur la bronchiolite du veau, la bronchiolite du nourrisson humain. On peut être amené à travailler avec des blaireaux si on travaille par exemple avec le bacille de la tuberculose, puisqu'on sait très bien par exemple qu'en Grande-Bretagne, l'agent dans la faune sauvage qui est responsable d'une grande partie de la diffusion de cette tuberculose, bien c'est le blaireau, donc on peut être amené à travailler avec quelques blaireaux pour mieux comprendre comment le bacille est adapté à son hôte. On peut travailler après sur de la volaille, sur du canard, sur le porc. Le porc est un animal singulier au regard, par exemple, des virus de la grippe, parce qu'il est capable à la fois d'être infecté par des virus qui ont pour origine la volaille, aussi infecté par des virus qui ont pour origine l'homme. Et en fait, de manière hasardeuse, chez le porc, des virus humains et des virus de volaille peuvent se mélanger, se combiner, se diluer l'un dans l'autre en quelque sorte, et donner le jour à de nouveaux virus. Et c'est en particulier chez le porc que naissent des virus originaux par hybridation en quelque sorte de virus existants dans d'autres espèces.
Et aujourd'hui, on parle de santé animale dans Priorité Santé. C'est rare, hein. Pourtant, justement, il y a des liens entre santé animale et santé humaine. Alors, comment découvre-t-on finalement les nouvelles maladies émergentes et les nouveaux virus? Depuis peu, une nouvelle technique est développée, celle des approches qu'on appelle sans a priori, comme l'explique Thierry Pinault, chef du département santé animale à l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique.
Alors, il y a deux manières de les découvrir. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce virus Schmallenberg qui est apparu il y a 2 ans, mais en fait, ce virus était lui totalement original. On l'a découvert, il avait une certaine communauté de génome, il partageait ses gènes avec des virus connus au Japon qui s'appellent le virus Akaban, au Japon et en Australie, mais il était quand même très très distant, on peut le considérer comme vraiment un virus original. Et puis, pour ce qui est de la découverte des réémergences ou de la découverte de ces vraies émergences, eh bien, on a des techniques qui sont nouvelles et originales, qui sont des techniques de surveillance sans a priori.
C'est-à-dire ?
Alors, on va prendre un échantillon, par exemple un échantillon de tique, sur le terrain, et par séquençage du contenu de la tique, on va séquencer la totalité des fragments d'ADN présents dans l'animal. Et qu'est-ce que l'on va trouver ? Ben, on va trouver, évidemment, le génome de la tique elle-même. On va trouver le génome des bactéries qui sont symbiotes de la tique, puisque la tique vit avec des bactéries à l'intérieur même d'elle. Et puis, on va trouver, au hasard, des fragments d'ADN qui peuvent provenir de virus, de bactéries ou de parasites que la tique peut héberger aux différents stades de sa vie. Et en fait, ces approches sans a priori, elles sont rendues possibles par 2 avancées majeures qui sont d'une part les techniques de séquençage dites à très haut débit et puis la gestion des données, vous savez ce qu'on appelle le big data, la capacité qu'on a à gérer des masses gigantesques de données nous permet de faire des comparaisons avec les bases de données et par identité avec des bases de données du génome des agents pathogènes, on va trouver peut-être des nouveaux virus apparentés, voisins de deux virus existants, et on va comme ça, de proche en proche, pouvoir identifier de nouveaux agents pathogènes. Donc ces approches sans a priori nous permettent de détecter finalement des agents pathogènes qui sont à ce jour inconnus mais qui ont une petite identité ou qui ont une petite signature qui nous permettent de les détecter dans cette masse d'informations.
L'entomologie, c'est-à-dire l'étude des insectes, est une discipline qui a perdu de sa superbe durant ces dernières années. Elle est en fait pourtant essentielle pour l'étude de ces zoonoses, ces maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme. En surveillant les insectes, on peut ainsi éviter l'émergence de nouvelles maladies. C'est ce qu'a fait l'Australie, qui a développé des techniques innovantes de surveillance des insectes. Thierry Pinault.
L'Australie est un pays qui, face aux émergences, est un pays traditionnellement très vulnérable parce que c'est un pays qui a une biodiversité très singulière. Ce continent s'est séparé des autres continents il y a vraiment un temps très très prolongé, ce qui fait que les espèces qui se sont développées dans des biotopes qui étaient très particuliers. Certaines espèces, lorsqu'elles arrivent dans une biodiversité singulière, ou en tout cas originale, ces espèces vont avoir une prolifération tout à fait considérable et vraiment ça va prendre la forme d'invasion. Donc l'Australie est absolument consciente de ça, elle essaie de surveiller très attentivement les émergences potentielles pour éventuellement les traiter et faire en sorte qu'elles n'aient pas d'impact. Et donc ils ont envisagé dans le cadre d'un programme qui s'appelle un programme Flagship, une stratégie de surveillance, mais à l'échelle de leur territoire, il ne peut pas s'agir d'une surveillance qui soit faite par des humains. Il faut automatiser la technique. Donc, on met des pièges à différents endroits dans le milieu sauvage australien. Ce sont des pièges à insectes. Les insectes passent par une sorte de petit couloir où ils sont photographiés, filmés et identifiés. C'est donc de l'analyse d'image entomologique. Et ça livre instantanément un diagnostic. Et puis pour tous les échecs de diagnostic, c'est-à-dire que l'appareil n'étant pas capable d'identifier formellement, la photo est envoyée finalement là à un analyste à distance qui va faire l'identification formelle de l'insecte. Comme ça, on a un réseau de capteurs de surveillance qui analyse nuit après nuit les insectes en circulation dans le bush australien. Et donc ça, c'est véritablement quelque chose de totalement innovant, cette stratégie de surveillance automatique sur des bases entomologiques des insectes qui sont en déplacement dans leur périmètre.
Priorité santé sur RFI.
Aujourd'hui, dans Priorité, nous nous intéressons aux nouvelles maladies émergentes et aux liens entre santé animale et santé humaine à l'occasion du 3e congrès One Health qui avait lieu à Amsterdam, aux Pays-Bas, le 16 mars dernier. Alors, Igor Strauss a rencontré là-bas Thierry Pinault, qui est chef du département santé animale à l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique. Dans le domaine du traitement contre les parasites, la recherche pour la santé animale a permis de développer des traitements pour les humains. L'onchocercose en est en tout cas un exemple. Mais généralement, c'est l'innovation venant du secteur humain qui finalement sert ensuite à la santé animale. En revanche, que l'on parle des hommes ou des animaux, il y a un même problème, celui de la mauvaise utilisation des antibiotiques.
Il y a un grand domaine qui, à l'échelle planétaire, préoccupe tout le monde, c'est celui de l'antibiothérapie. Nous sommes dans une situation que l'on peut qualifier de critique au regard du développement des antibiotiques.
Pourquoi critique ? À cause des résistances ou pourquoi ?
Alors, des résistances sont apparues. Elles sont liées à de mauvais usages faits des antibiotiques. Le secteur animalier comme le secteur humain ont connu des excès, des dérapages, des situations mal maîtrisées, mal contrôlées de prescription qui concourent à faire émerger de la résistance aux antibiotiques. Et ça, en fait, c'est un véritable problème parce que ça se propage comme une véritable pandémie à l'échelle planétaire. Pourquoi cela ? C'est parce que on va très facilement, en se rendant dans un pays où il y a une forte prévalence d'antibiorésistance, pouvoir être en contact avec des bactéries résistantes. Ces bactéries, on va les ingérer avec des aliments, avec... Voilà. On va pouvoir observer un échange de ces gènes de résistance entre la bactérie résistante et puis notre flore intestinale normale, naturelle. Tout ça se fait vraiment sans pathologie, sans rien. Et à notre retour en Europe, on va héberger pendant un certain laps de temps ces gènes de résistance aux antibiotiques. Et si on tombe malade et si on nous prescrit des antibiotiques auxquels justement notre flore va s'être habituée à résister, eh bien ces gènes de résistance vont pouvoir éventuellement être échangés avec des bactéries pathogènes cette fois. Et donc on va rendre des bactéries pathogènes à leur tour résistantes. Donc vous voyez que de proche en proche, et comme les voyages sont innombrables, on a une vraie problématique planétaire. Donc il faut en sortir en essayant véritablement de faire de meilleurs usages des antibiotiques, réduire ces utilisations, et puis il faut par exemple arriver à réduire les usages d'antibiotiques en tant que promoteurs de croissance pour les animaux. Ça, véritablement, l'Europe s'est débarrassée de cette pratique il y a déjà maintenant une quinzaine d'années. Il faut véritablement que le reste de la planète suive et que les antibiotiques soient réservés chez l'animal au traitement. Et puis, il y a également, alors là du côté de la médecine humaine, de très gros efforts à faire dans des très très grands pays comme l'Inde, la Chine, où l'antibiothérapie est véritablement encore d'un accès beaucoup trop aisé, pas supervisé toujours par des médecins. Et là, véritablement, ces pratiques sont propices à l'émergence de résistance. Mais on ne gagnera ce pari que si véritablement tous les pays de la planète s'y mettent et s'y mettent conjointement. Parce que la seule vraie échelle pertinente pour traiter l'antibiorésistance, c'est véritablement la planète.
Et donc maintenant, évidemment, une question se pose. Quelles sont les innovations techniques à développer? Thierry Pinault, chef du département santé animale à l'INRA.
En matière d'innovation, le domaine du vaccin en est véritablement un. Par exemple, l'industrie pharmaceutique en santé animale, sur l'émergence du virus de Schmallenberg, a réalisé la production d'un vaccin en un temps record que nous n'avions jamais connu auparavant. C'est-à-dire que entre le moment où le virus a été identifié en Allemagne et le moment où le premier vaccin a été disponible, il ne s'est écoulé que quelques mois. C'est véritablement une superbe innovation.
Mais est-ce que ça aurait été possible avec l'homme, sachant qu'on attend toujours un certain nombre d'années pour constater d'éventuelles réactions ou des effets secondaires? Donc est-ce qu'on raisonne pour l'homme et pour l'animal de la même façon quand on parle d'innovation et de vaccination?
Alors, on ne raisonne pas complètement et on n'a pas les mêmes contraintes légales et juridiques, mais en revanche, vous le voyez bien dans le cadre du virus Ebola, on essaie de faire un compromis entre la meilleure sécurité possible et la plus grande rapidité pour venir en aide aux patients. Et puis dans les innovations qu'on peut voir pour le proche futur, il y a des développements innovants qui ont lieu ces toutes dernières semaines dans la foulée donc de l'émergence du virus Ebola en Afrique, où des chercheurs du MIT à Boston ont développé des tests qui permettent un diagnostic en quelques minutes qui va discriminer s'il s'agit par exemple de vraiment le virus Ebola qui est présent chez l'individu ou si c'est le virus de la dengue ou un autre virus qui est présent chez l'individu. Et ça, ça se fait grâce à des petits nano-objets, des nanoparticules d'argent sur lesquels on va greffer des anticorps qui vont reconnaître le bon virus. Et lorsque le couplage avec l'anticorps par exemple anti-Ebola va se faire, eh bien la taille de ces petites particules d'argent fera qu'elles vont réfléchir la lumière d'une certaine couleur. Et ça, ce sont vraiment des applications des sciences les plus novatrices au diagnostic rapide au chevet du patient.
C'était Thierry Pinault, chef du département santé animale à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, lors du 3e congrès One Health, une seule santé, dont l'objectif, vous l'avez bien compris, est de penser collectivement santé humaine et santé animale afin de mieux prévenir l'émergence de nouvelles maladies. Et on se retrouve dans 3 minutes après les informations pour parler d'un tout autre sujet. On va s'intéresser au tourisme médical dans le monde et à la situation de la France dans ce domaine. Et je vous rassure, comme tous les jeudis en fin d'émission, vous retrouverez la chronique du docteur Catherine Solano.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Après avoir parlé de l'émergence de nouvelles maladies et des liens entre santé animale et santé humaine, on va parler d'un tout autre sujet. Je vous propose de nous intéresser au tourisme médical. Et bien sûr, comme tous les jeudis en fin d'émission, vous retrouverez le docteur Catherine Solano. De plus en plus de patients à travers le monde se rendent à l'étranger pour bénéficier de soins, soit parce que les traitements n'existent pas dans leur pays, soit parce qu'ils y sont trop chers. En 2007, ils étaient 7,5 millions à aller soigner dans un pays étranger. 5 ans après, en 2012, ils étaient 16 millions, donc plus du double. Ce marché mondial est d'ailleurs aujourd'hui estimé à 60 milliards d'euros. Ces chiffres sont relativement quand même approximatifs, parce qu'on a du mal à l'évaluer. Pour en parler, je reçois David Marguerie. Bonjour, merci d'être avec nous pour nous parler de cette question-là. Vous êtes chargé de mission au département Société, Institutions et Politique Sociale à France Stratégie, qui vient de publier une analyse sur la place de la France, finalement, dans ce marché international des soins. D'abord, qu'est-ce qu'on met sous ce terme de tourisme médical, David Marguerie, parce que le terme n'est pas très heureux, quand même.
Non, effectivement, le terme n'est pas très heureux, surtout en France, où il a une connotation assez négative. Malgré tout, c'est le terme généralement utilisé dans la littérature anglo-saxonne. Et ça regroupe... On appelle tourisme médical, en fait, les flux de patients qui vont à l'étranger pour recevoir des soins de santé, donc qui se déplacent dans l'objectif de recevoir un traitement. Un exemple très concret, par exemple, une personne du Qatar qui décide d'aller aux États-Unis ou en France pour se faire soigner.
Parce qu'il n'y a pas les traitements disponibles dans son pays, c'est souvent ça ? Alors, et dans l'autre sens, les Américains ou les Français qui vont se faire soigner ailleurs parce que c'est trop cher.
Voilà, en fait, on liste quatre motivations personnelles qui peuvent nous amener à aller à l'étranger pour se faire soigner. Tout d'abord, c'est ce que vous avez rappelé, c'est l'accès à des techniques ou des technologies qu'on n'a pas dans le pays dans lequel on réside, pour différentes raisons, pour des raisons de développement du pays qui n'a pas encore accès à certains...
À l'innovation.
Voilà, exactement. Mais aussi pour des raisons religieuses. Par exemple, l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, on sait que c'est pas autorisé dans tous les pays, donc on peut décider d'aller dans un autre pays pour le faire. La deuxième raison, c'est la qualité des soins, qui va dépendre d'un pays dans lequel on est.
Pas de soins disponibles. Qualité des soins,
voilà.
Troisième point.
Le temps d'attente, qui peut varier énormément d'un pays à un autre. Donc, quand on est malade, parfois, on n'a pas envie d'attendre 3 mois, 4 mois qu'une place se libère. Donc, on veut aller à l'étranger pour avoir le soin le plus vite possible. Et est-ce que vous avez évoqué donc le prix des traitements qui, pareil, fluctue beaucoup d'un pays à l'autre, même pour des pays de niveau relativement équivalent, comme les États-Unis ou la France, où on voit par exemple qu'un pontage coronarien, donc une opération au niveau du cœur, peut coûter plus de 100 000 dollars aux États-Unis, alors qu'en France on en a pour 25 000 dollars, quelque chose comme ça.
Et alors cette analyse part du constat que la France est peu présente sur ce marché. De nombreux pays ont choisi d'investir dans ce tourisme médical et finalement la France s'est dit pourquoi pas nous, il y a de l'argent à gagner, c'est un peu ça l'idée de départ ?
Alors, voilà, pour revenir dans le contexte, on a rendu un rapport il y a en juillet dernier au président de la République sur la France dans 10 ans, dans lequel on fixe des objectifs, et dedans on avait un objectif de redressement économique, et du coup on s'est posé la question de comment on pouvait élargir le socle de compétitivité de la France. Et un des points qui nous est apparu, c'est le fait d'accueillir des patients étrangers en France, donc qui générerait un nouveau marché que vous avez évoqué, donc qui se développe au niveau international. Il y a des pays qui sont dedans déjà depuis longtemps, les États-Unis, l'Allemagne. Il y a 15 ans, l'Allemagne a organisé un débat à l'Assemblée pour savoir s'il fallait se lancer dedans ou pas. Ils ont décidé que oui. Maintenant, il y a des hôpitaux comme à Berlin qui reçoivent énormément de patients étrangers.
Faut quand même citer l'Inde là-dedans, parce que c'est la première destination dans ce domaine.
Ouais, voilà. Alors, en fait, on schématise, on a deux grands types de flux et de stratégies entre les pays et les patients. On a les patients des pays émergents ou des pays pétroliers, par exemple, qui décident d'aller dans les pays riches pour recevoir des traitements d'excellente qualité. Donc
ce sont que les riches de ces pays-là, hein, c'est
ouais, la classe moyenne aisée qui est en train d'apparaître. Voilà, par exemple en Chine, on peut même imaginer qu'il y a une classe moyenne aisée qui apparaît, qui décide d'aller se faire soigner à l'étranger. Donc ces gens-là vont privilégier comme destination l'Allemagne ou les États-Unis, par exemple. Mais on a aussi d'autres flux, et cette fois-ci, c'est des flux de patients qui viennent de pays développés, hein, et qui préfèrent aller dans des pays un peu moins développés parce que les soins sont moins chers et pourtant restent de bonne qualité. Et donc là, vous avez cité l'Inde. Typiquement, les États-Unis, donc les personnes des États-Unis, vont privilégier l'Inde ou la Thaïlande aussi, qui reçoit énormément de touristes médicaux, parce que on a des médecins qui sont très bien formés, qui pour la plupart font leur cursus universitaire dans des grandes universités aux États-Unis ou en France ou je sais pas dans des pays où il y a des très bons niveaux un très bon niveau médical et sauf que là-bas une fois qu'ils exercent en Inde le prix des traitements est nettement moins cher donc
et alors là on est apparemment beaucoup enfin c'est en tout cas l'image qu'on a par exemple avec le Maghreb on est beaucoup dans les soins esthétiques dans la chirurgie esthétique et les soins dentaires pour tout ce qui est par exemple l'Europe de l'Est si on pense à la France, c'est ça ?
Oui, effectivement, en Europe, on a...
On n'est pas sur une opération cardiaque, hein, en gros.
Non, alors ça existe aussi. Ouais. Effectivement, on parle beaucoup des chirurgies esthétiques. Voilà, au Brésil, beaucoup de gens vont au Brésil pour se faire ce type d'opération. Alors, je ne sais pas si la France est sur ce domaine-là qu'elle doit accueillir des patients.
C'est plutôt dans l'autre sens.
Oui, voilà. C'est plutôt en France, on a une médecine qui est excellente. On fait des premières mondiales. On a une technologie qui est de pointe. Et du coup, il me semble que c'est sur ces pathologies-là où il faut essayer de faire venir des patients étrangers.
On a un peu, je dirais, montré le contexte. Avant de venir à ce que vous préconisez, parce que l'intérêt de cette analyse, c'est quand même beaucoup ce que vous préconisez, quand même, moi, j'ai quelques questions. Est-ce que ça pose pas un problème éthique ?
Alors,
franchement, je vous entends parler d'un marché. Est-ce que la santé est un domaine marchand ?
Effectivement. Non, vous faites bien de poser cette question. Et c'est un point qui est essentiel. Et dans la note, on en parle. Effectivement, c'est particulier de parler d'un marché pour la santé. Après, voilà, ce qui se passe, il y a des gens qui sont prêts à payer pour avoir des soins qu'ils n'ont pas accessibles chez eux. C'est des gens qui ont la possibilité de le faire. On peut se dire, est-ce que nous, en France, on peut le faire? Alors, à condition, avec des conditions très importantes, il faut pas que ça crée un système à double vitesse en France. Par exemple, si quelqu'un est prêt à payer une opération extrêmement chère, pour autant, faut pas qu'il passe devant tout le monde. S'il y a une liste d'attente, faut qu'il attende son tour. On peut pas lui réserver.
Il faut pas être naïf, on sait bien ce qui va se passer.
Alors. Ça dépend en fait. Typiquement, un exemple que moi j'aime bien, c'est à l'IGR, l'Institut Gustave Roussy,
voilà. Hein, qui est un centre de référence en cancérologie.
Voilà, exactement. Et ils ont, c'est un des hôpitaux français qui est assez développé dans l'accueil de patients non résidents. Hein. Et donc le médecin en chef qui s'occupe de ces patients nous expliquait, voilà, il reçoit des dossiers, il sélectionne les dossiers qu'il pense pouvoir traiter, il accepte, et ensuite il a ce qu'il appelle un entretien d'éducation médicale avec ce patient-là. Et il lui explique, écoutez, vous voulez venir en France, vous voulez bénéficier de nos services qui sont excellents. En échange, vous n'aurez pas de traitement de faveur. Vous serez comme un patient normal, vous aurez pas de priorité, vous aurez pas d'infirmier en plus, vous aurez pas, je sais pas, des conditions, une chambre personnelle pour vous, plus pour votre famille, etc. Et à partir de là, le patient est soit d'accord avec ces conditions, auquel cas il vient, il se fait soigner ici, soit il est pas d'accord et il va autre part, enfin. Et je crois qu'il faut vraiment garder cette ligne-là, parce que sinon ça va pas être accepté à la fois par les assurés sociaux français et à la fois par les médecins.
On commence quand même en France à manquer de médecins, entre autres à cause du numerus clausus. Hein. On les fait venir des pays du Sud, de l'Europe de l'Est, hein, beaucoup aussi de Roumanie. Et en plus, on veut développer le tourisme médical. Ça me paraît un peu antinomique.
Oui. Alors, effectivement, si on décide de développer ce secteur, le tourisme médical, ça veut dire qu'il faut un peu changer de politique. Hein. Par exemple, si on veut accepter des patients en plus, il faut des lits disponibles. pour pouvoir les soigner. Hein. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une logique de réduction des coûts où il faut, au contraire, sauvegarder les coûts, faire attention à ces dépenses. Et donc, on essaye de fermer les listes, un peu pareil pour les médecins. Et donc, non, ça veut dire que si on se lance dedans, il faut se dire, on garde des marges de manœuvre pour accueillir des patients.
Avec docteur Catherine Solano qui me fait signe depuis un moment, elle veut une question à vous poser.
Parce que moi, ma question, c'est est-ce qu'en faisant ça, on peut espérer gagner de l'argent, faire que la sécurité sociale gagne de l'argent et que du coup, les gens justement qui n'ont pas... Parce qu'on dit que la médecine est formidable en France, mais pas forcément partout. Hein. Et donc, on manque de moyens quand même. Est-ce qu'on peut espérer que ça, on aura plus de moyens pour mieux soigner les Français aussi? Donc, dans ces cas-là, c'est génial.
Alors, votre idée, c'est ça, hein, c'est que ça rapporte de l'argent.
Alors voilà, notre idée est là, hein, c'est que on veut, enfin on pense qu'il est préférable de développer ce marché parce que ça va rapporter de l'argent aux hôpitaux. Alors ça va pas rapporter beaucoup d'argent parce que on est quand même sur un marché plutôt de niche, hein, mais ça va rapporter un peu quand même.
Attendez, je vous interromps là-dessus. D'ailleurs, est-ce que c'est pas plutôt le privé qui va s'en emparer? Vous citez aussi dans le rapport l'hôpital américain, qui est vraiment du privé à but lucratif. Vous avez cité l'IGR, l'Institut Gustave Roussy, qui est du privé à but non lucratif, donc quand même un tout petit peu différent. Mais est-ce que finalement, c'est pas plutôt les cliniques privées qui vont s'emparer de cette question?
Alors, c'est une interrogation qu'on avait au tout début. C'est une interrogation qui se pose beaucoup dans les pays anglo-saxons. En France, on pense pas que ça soit le cas parce que en France, il me semble que les grands médecins, en tout cas mondialement reconnus, sont plutôt dans les hôpitaux publics et que ces patients-là veulent ces médecins-là et que du coup ça se fera dans l'hôpital public. Mais bien sûr, il faut faire attention parce que effectivement, si tout le monde va dans les cliniques, il y aura ensuite un appel pour faire venir ces médecins très reconnus dans les cliniques, et là on aura un déséquilibre. Donc il faut bien faire attention à ça, vous avez tout à fait raison. Mais pour le moment, je crois pas que ça soit...
Et donc, quelle stratégie mettre en place pour favoriser, puisque l'objectif de votre... Déjà, en fait, j'ai peut-être une question que je vous ai pas demandé au début, c'est France Stratégie, vous êtes pas connu du grand public, c'est quoi?
On n'est pas connu. Alors, on est France Stratégie, c'est un organe de concertation et de prospective rattaché au Premier ministre, qui était anciennement le centre d'analyse stratégique et encore plus anciennement le commissariat au plan.
Voilà, donc un organisme public. Non, mais c'était important de préciser ça. Alors, qu'est-ce que vous préconisez concrètement, c'est ce que finalement demande Catherine, pour que ça rapporte de l'argent à la France, vous préconisez quoi? Alors, et à notre sécu.
Ouais, alors nous on préconise on pense qu'il faut jouer sur deux axes. Un premier axe, c'est donc l'accueil de patients étrangers. Donc c'est-à-dire organiser les hôpitaux de manière à ce qu'ils puissent le faire. Donc ça pose des questions auxquelles on n'apporte pas forcément des réponses, mais auxquelles on soulève. Par exemple, la tarification. Qu'est-ce qu'on fait comme tarification? Aujourd'hui, les hôpitaux ont le droit de surtarifier ces patients-là. La moyenne, c'est qu'ils surtarifient de 30 à 40%. Est-ce que c'est le bon prix? Je pense qu'on peut aller un petit peu plus élevé parce que on a encore des prix qui sont relativement faibles par rapport à nos concurrents comme les États-Unis ou l'Allemagne. Après, ça suppose, qu'est-ce qu'on fait de ces recettes? Est-ce que c'est l'hôpital qui a reçu le patient qui garde tout pour lui? Non, on pense pas. On pense que
il faut en donner à la sécu, c'est ça?
Alors, on pense qu'il faut en garder une partie pour l'hôpital parce que ça l'incite à recevoir des patients étrangers, hein, sinon il le fera pas. Mais il faut en garder une autre partie pour le redéployer dans les autres hôpitaux où eux, ils peuvent être, par exemple, un peu moins bien dotés pour recevoir des patients étrangers. Donc, ils seront toujours un peu à côté, si vous voulez. Donc, en fait, on va leur donner un peu plus pour qu'ils puissent avoir des chambres individuelles, etc. Et puis, rentrer dans le marché. Et puis, comme ça, ça bénéficie aussi aux assureurs sociaux français.
Voilà. Vous citez des exemples en Belgique, en Allemagne. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ces expériences?
Alors, en Belgique, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est qu'ils ont, les hôpitaux se sont réunis pour créer le Healthcare Belgium, ce qu'on appelle, hein, et c'est une entité qui s'occupe de promouvoir les hôpitaux belges à l'étranger et de flécher les soins pour les patients qui souhaitent venir. Et c'est assez intéressant parce que ça évite à ces hôpitaux de se faire concurrence entre eux, hein, qui sont tous belges, et en même temps, ça leur permet de parler d'une voix sur la scène internationale et d'avoir plus de poids, si vous voulez. Et on pense que nous en France, c'est vers ça qu'on doit aller. Les hôpitaux doivent se mettre d'accord pour créer une entité, pour ensuite flécher les bonnes pathologies au bon endroit, etc. Pour que on ait plus de poids.
Un autre exemple de pays où il y a des choses intéressantes? Non, c'était surtout ça. Bon, ouais. Moi, j'ai encore deux questions à vous poser avant qu'on termine. D'abord, comment cette étude est-elle perçue par les médecins? Je pense entre autres aux médecins des hôpitaux publics. Quelles ont été les réactions?
Alors,
plutôt négatives, non? Très honnêtement.
on a eu les deux, si vous voulez. On a eu effectivement, il y a des médecins qui considèrent que la santé est pas un bien marchand et que du coup, on doit pas faire des surtarifications pour des prestations, etc., sous prétexte que des gens peuvent payer plus, et qu'au contraire, on doit traiter tout le monde de manière équitable. Ce qui s'entend, hein. Donc, ces médecins-là, il faut essayer de leur expliquer, oui, mais pourquoi ça serait bien aussi, qu'est-ce que ça peut rapporter aux hôpitaux français, pour eux, pour les patients à côté qui soignent, qui sont...
Pour justement faire de la redistribution derrière.
Exactement. Mais au-delà de ça, on a rencontré des médecins qui nous ont dit, bah, écoutez, moi, au contraire, quand un patient étranger est prêt à faire 10 000 km pour venir se faire soigner dans mon service, je suis extrêmement flatté et très content de le recevoir et de le soigner.
Juste une dernière question, c'est à propos de votre conclusion, hein, je vais la lire. Le tourisme médical n'est toutefois pas une solution miracle pour le financement du système de santé, ne doit pas servir de dispense à un débat plus large sur le renforcement du volet santé de l'État-providence français. Qu'est-ce que vous voulez dire par là sur la fin? Le début de votre phrase, je la comprends bien évidemment, c'est la fin.
Non, ce que nous on veut dire, c'est que c'est pas un remède miracle. Miracle. Aujourd'hui, je crois
que... Ça, c'est clair, je l'ai compris, mais voilà. Sur la question de l'État-providence français,
C'est l'idée, est-ce qu'on ne doit pas avoir un débat sur aujourd'hui comment fournir des prestations de soins? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes à l'hôpital, dans les hôpitaux français, etc. Et que du coup, on ne doit pas se dire, voilà, on a parlé du tourisme médical et c'est fini et tous les problèmes sont résolus. Non, il y a peut-être d'autres choses à voir, à régler.
Mais ça voulait dire, quand vous dites ça, de remettre un peu en cause notre système de protection sociale? C'est ça que vous mettez derrière, où le patient doit plus payer? C'est ce que j'entends dans votre phrase.
Ah non, pas du tout. Non.
J'entends peut-être mal.
Non, c'est pas. Non, on veut pas dire que le patient doit plus payer. Non, pas du tout. C'est dans l'organisation générale des hôpitaux. Est-ce que tout est bien fait aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas de problème avec des médecins qui font trop d'heures, par exemple? Je sais pas, ou ce genre
de questions de réorganisation.
Voilà, exactement.
Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Si vous avez envie d'avoir plus de détails, d'ailleurs, hein, je renvoie sur notre site internet. On a mis toutes les coordonnées de cette analyse parce qu'il y a peut-être des médecins qui nous écoutent que ça peut intéresser. Merci beaucoup, David Marguerie. On va finir en retrouvant la chronique du docteur Catherine Solano avec encore un tout autre sujet.
Priorité santé sur RFI.
Et franchement, comment passer des maladies émergentes au tourisme médical? À vous, docteur Catherine Solano. Vous avez en plus nous parlé du Kama Sutra. Vous avez tous entendu parler du Kama Sutra, un livre ancien réputé pour décrire les positions de l'amour. Et vous avez choisi de nous parler de ces diverses positions. Est-ce que tout le monde les pratique? Change-t-on facilement de position? Peut-on apprécier toutes les positions? Quelles sont les meilleures pour le plaisir? Et d'abord, est-ce que tous les couples pratiquent plusieurs positions ou pas forcément?
Alors, j'avais réalisé il y a quelque temps un sondage sur ces questions pour un congrès de gynécologues d'ailleurs. Et donc, 10 000 femmes avaient répondu et la question c'était, dans votre couple, vous pratiquez combien de positions? Résultat, 4% des couples disaient on pratique toujours la même position. 48% disaient on pratique 2 ou 3 positions et 49% on pratique un peu tout. Et donc, on constate qu'il y a quand même 95% des couples qui pratiquent plusieurs positions, même plus que 95%. Donc après, j'avais posé d'autres questions et il s'avère qu'au cours d'un rapport sexuel, il y a 16% des couples qui disent, nous, quand on a un rapport sexuel, on pratique une seule position pendant ce rapport sexuel, même si ça peut être une autre fois, parce qu'on veut vraiment profiter de cette position. Et 43% disaient, nous, on aime bien varier au cours d'un rapport sexuel, et d'autres disaient, bah ça dépend. Et j'ai trouvé que cette enquête était intéressante parce qu'en fait, tout le monde se dit pas on doit absolument faire tout le Kama Sutra à chaque fois, ni tout le monde est bloqué dans une seule position, donc j'ai l'impression que chaque, il y a quand même une liberté dans les couples. Et alors une autre chose intéressante, c'est quand le partenaire, c'est-à-dire l'homme, propose une nouvelle position, 0% des femmes disent j'en ai pas envie, pour moi c'est de la gymnastique, 10% disent oh moi j'ai pas besoin de changer de position pour avoir de plaisir, et 89% disent bah c'est plutôt excitant ou amusant. Donc au total, les femmes étaient plutôt partantes. Bon, c'était aussi des femmes qui avaient accepté de répondre. Il y en a peut-être qui ne veulent pas parler de ça.
Et est-ce qu'il y a des positions qui sont finalement plus propices au plaisir?
Alors en fait, oui, il y a des positions plus propices, mais je peux c'est difficile de les citer parce que ça dépend de beaucoup de facteurs. Alors le premier facteur, c'est l'anatomie de chacun. Donc par exemple, vous savez qu'un homme en érection, eh bien l'angle de l'érection est très différent. Et en fonction de cet angle, il y a des positions qui vont plutôt lui faire mal parce que ça va tirer, ou d'autres qui vont être agréables. Et donc le pénis, il peut être vertical, horizontal, à droite, à gauche ou vers le bas. Donc c'est très très variable. L'anatomie interne change aussi selon les femmes. L'angle du vagin, il n'est pas pareil. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de possibilités différentes. Et puis,
donc il n'y a pas de réponse,
donc, y a pas de réponse unique. Deuxième chose, les plaisirs dépendent de ce qu'on voit dans une position. C'est-à-dire, si vous voyez une zone du corps de l'autre qui est excitante pour vous, bah, vous pouvez avoir plus de plaisir alors que ce n'est pas lié à la mécanique. Ça dépend aussi des caresses possibles dans une position. C'est-à-dire qu'il y a des positions où vous avez les mains bloquées et d'autres où vous pouvez prodiguer des caresses. Donc ça donne des résultats très différents. Ça dépend aussi des fantasmes. Vous pouvez avoir une position qui pour vous est très excitante sur le plan fantasmatique. Donc ça change, ça joue beaucoup. Ça dépend aussi de la capacité à bouger et à trouver le meilleur angle, le plus agréable dans une position. Ça dépend aussi pour beaucoup de personnes, une chose très importante dans la relation, si on peut se regarder dans les yeux ou pas, parce que c'est important pour le plaisir. Et puis ça dépend aussi des mouvements de va-et-vient, de la manière dont vous allez bouger. Donc vous voyez, c'est très variable.
Donc vous n'avez pas une réponse ferme à faire sur quelle est la meilleure position, mais quand même, est-ce que vous avez des avis sur les positions préférées des couples? Parce que ça dit peut-être quelque chose.
Oui, alors justement, dans l'enquête que j'avais faite, j'ai posé la question aux femmes en disant, c'est quoi votre position préférée malgré tout. Et alors 35% disaient ma position préférée chez les femmes. C'est la levrette, c'est-à-dire quand la femme est à quatre pattes et l'homme derrière. Pourquoi? Peut-être parce que cette position est réputée pour permettre une pénétration plus profonde et du coup certaines femmes ont plus de sensations dans les zones profondes du vagin. Alors 31% des femmes après disaient ma position préférée c'est en Amazone, c'est-à-dire c'est le type de position où l'homme est allongé sur le dos, sa partenaire est dessus et dans cette posture l'avantage c'est que la femme peut s'incliner vers l'avant, vers l'arrière ou choisir le bon angle et puis elle peut contrôler aussi la rapidité, la fréquence et le rythme des mouvements. Du coup quand une femme est à l'aise dans cette position, bah elle peut se dire c'est la meilleure posture, je trouve mon plaisir comme je l'entends. Et puis 28% des femmes préfèrent la position en missionnaire, donc c'est la position où la femme est en dessous et l'homme dessus, la plus classique, et 6% disent non mais moi c'est encore une autre position.
Alors faut-il explorer pour savoir quelle position un couple préfère, puis ensuite j'allais dire s'en tenir à cette posture, ou bien est-ce qu'il vaut mieux changer régulièrement?
Alors les deux sont intéressants parce qu'il y a certains couples qui se disent ça y est on a trouvé notre mode de fonctionnement, on va fonctionner comme ça tout le temps et en fait c'est dommage parce que en fait on est déjà... Il y a un risque d'usure, oui exactement, parce que ça peut devenir ennuyeux et puis aussi parce qu'on n'est pas notre corps n'est pas un objet, il est évolutif, c'est-à-dire que même si vous pratiquez une position plutôt moins agréable, petit à petit votre corps peut s'érotiser dans cette position et puis au bout de quelques mois ou même quelques années vous pouvez vous dire finalement c'est agréable et c'est pas le même plaisir, donc ça vaut quand même le coup de se connaître mais en même temps de développer d'autres capacités de plaisir.
Et pour les hommes, quelles sont les positions les plus agréables? Est-ce qu'il y a une réponse ou pas?
Pour les hommes, j'ai pas fait d'enquête, donc j'ai pas la réponse, mais par contre, je peux donner un conseil, c'est que quand un homme souffre d'éjaculation précoce, question qu'on nous pose très souvent ici, il y a une posture qui est excellente, c'est quand il est sur le dos et que c'est sa partenaire qui va bouger, faire les mouvements, parce que ça a tendance à ralentir l'éjaculation précoce et il faut absolument que dans cette position, il ait le bassin immobile.
Et docteur Solano, c'était important de parler de ces questions de position, parce que ça rejoint quelque chose que vous abordez depuis très longtemps, c'est de dire finalement la sexualité, ça s'apprend.
Tout à fait, exactement, ça s'apprend. Et puis, souvent beaucoup de personnes se disent on est vraiment nul, on connaît que 3 positions. Eh bien, bienvenue au club, parce qu'en fait, dans le Kama Sutra, il y a 300 positions, mais en fait, c'est toutes les mêmes. Il y a 3 ou 4 types de positions. Après, vous levez un bras en l'air, le pied, vous êtes sur le côté ou de face. Finalement, il n'y a pas des milliers de positions non plus.
Mais c'est pas non plus obligé de se transformer en exercice de gymnastique très compliqué. Voilà. Comme tous les jeudis, vous répondez aussi à une question d'auditeur ou d'auditrice. En l'occurrence, il s'agit de Marie-Ange, qui est dans la région parisienne, qui nous a envoyé un message, mais elle n'avait pas du tout envie de parler en direct à l'antenne, donc on peut le faire aussi, et c'est moi qui vais lire sa question. Elle dit « Mon mari a un cancer de la prostate et ne peut plus rien faire depuis plus d'un an. Que peut devenir une femme dans ces cas-là? Comment garder une sexualité dans ces conditions ?» Elle précise bien « On a plus de 70 ans tous les deux. » Docteur Solano.
Alors,
d'abord, pourquoi, effectivement? La première question, c'est pourquoi un cancer de la prostate peut entraîner des problèmes sexuels?
Alors, quand on enlève la prostate à cause d'un cancer, l'érection n'est plus possible par la suite. En tout cas, quand les nerfs érectiles ont été coupés, ce qui est le cas dans un bon nombre de cas. Alors, le chirurgien n'est pas forcément obligé de les couper. D'ailleurs, il y a des fois où il peut les conserver. Mais même dans ce cas-là, un homme ne va plus avoir d'érection tout de suite après son opération. Ça va souvent prendre des mois ou jusqu'à 2 ou 3 ans pour récupérer l'érection. Donc,
Et dans certains cancers de la prostate, il y a aussi un traitement hormonal qui du coup, effectivement, empêche l'érection.
En plus, oui, tout à fait.
Comment faire dans un couple, justement, quand on peut plus avoir de relations sexuelles? Vous dites que c'est pas terminé pour autant.
Ben non, justement, Marie dit, mon mari ne peut plus rien faire. Or, c'est faux. Heureusement qu'un homme qui n'a plus sa prostate, il peut encore faire plein de choses. Bon, dans la vie en général, mais dans la sexualité aussi. Déjà, on sait que les femmes ont souvent du plaisir déclenché par les caresses. Et bien sûr, on peut caresser sa partenaire avec son pénis, mais aussi avec ses mains. Donc, il peut très bien faire beaucoup de caresses à sa partenaire, en particulier sur le clitoris, qui est souvent le déclencheur de l'orgasme féminin, mais aussi à l'intérieur du vagin. Et on peut très bien obtenir des orgasmes de cette manière. Et puis, d'autre part, au niveau du plaisir masculin, c'est vrai que de ne plus avoir d'érection, c'est une perte très importante pour un homme, quel que soit son âge. Mais les caresses peuvent quand même rester agréables au niveau du pénis, parce que c'est pas parce qu'il n'y a plus d'érection qu'il n'y a plus de sensations. Donc ça vaut quand même le coup d'apprécier les sensations qu'on peut avoir.
Et est-ce qu'il existe des solutions pour retrouver une érection après un cancer de la prostate?
Oui, après un cancer de la prostate, il y a plusieurs solutions médicales si les nerfs sont coupés. Donc on fait des injections intracaverneuses, c'est-à-dire des piqûres dans le pénis qui vont déclencher une érection mécanique, même si les nerfs fonctionnent plus. Ou alors, on peut utiliser le vacuum, qu'on appelle aussi la pompe à érection, qui est associée à un anneau pénien, qui est une technique pour déclencher des érections. Et on peut aussi faire de la chirurgie et mettre un implant pénien, qui est une solution qui marche souvent très bien, en particulier chez les hommes relativement âgés.
Donc, il y a des solutions, c'était important de le dire. Et docteur Catherine Solano, comme d'habitude, on retrouve votre chronique sur le blog de l'émission. Vous trouvez toutes les coordonnées sur notre site internet rfi.fr, dans la rubrique Priorité Santé. Demain, on va parler de la santé mentale des adolescents. Phobie scolaire, échec, harcèlement, dépression, un téléphone, le 33 1 84 22 75 75. À demain.